Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Direction la capitale ivoirienne pour accueillir notre première invitée en duplex de la semaine. Ça a été un peu compliqué la semaine dernière, mais normalement les choses devraient être rétablies. Et on va d'abord le vérifier avec notre commandante de bord toute la semaine, c'est Léonce Kouakou. Bonjour Léonce, comment ça va du côté de Babi et est-ce que tout va bien? Bonjour.
Bonjour Aïssa, ça va très bien Babi, on dit quoi chez toi?
Ça va, tout va bien, il y a un peu de soleil, on est là, on ne va pas se plaindre. Hein.
En tout cas.
Allons-y avec notre invité installé sur le plateau à Babi, nous accueillons Pierre Lemsa. Il est chargé du développement commercial chez Équipe. Donc, il s'agit donc d'une société de services et d'ingénierie informatique. On va parler avec lui notamment de traçabilité, mais aussi de mobilité. Alors, merci de nous rejoindre, Pierre Lemsa. On va parler également de l'ensemble de vos activités, de vos engagements. Alors, vous êtes responsable du développement commercial chez Équipe. Hein, c'est une société qui est basée à du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une société de services et d'ingénierie informatique. Alors, merci de nous rejoindre. Bienvenue.
Je suis là. Bonjour Aïssa, je suis là, je suis présent.
Alors, il s'agit en fait d'une panoplie de solutions pour apporter des outils nécessaires pour gagner du temps, économiser des ressources et de la performance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que sont la traçabilité et la mobilité pour commencer, Pierre Lemsa?
D'accord, merci Aïssa. En tout cas, c'est un énorme plaisir pour moi d'être là et d'être votre invité et puis surtout de vous parler. Alors, en gros, on parle de traçabilité lorsqu'on veut définir, on veut identifier tout au long d'un processus, je dirais un produit ou un service. Donc, la traçabilité, en gros, c'est la situation où on possède les informations nécessaires suffisantes pour connaître la composition d'un produit, pour définir son origine et puis le point d'arrivée, en gros. Donc, en gros, voilà, c'est un peu ce que c'est que la traçabilité. À l'origine, c'était pour pouvoir, je prends un exemple, au début des années 1980, il y avait la guerre en Sierra Leone, il y avait la guerre au Libéria. Et le bois en tant que matière première était utilisé, était vendu pour faire le financement des rébellions et apporter énormément d'argent pour acheter des armes.
Ouais.
Donc il a fallu mettre un embargo sur le bois qui venait de la Sierra Leone et du Libéria. Mais de quelle manière on va savoir que ce bois-là vient du Libéria ou de la Sierra Leone? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc du coup, c'est là qu'est née la traçabilité. Mais on n'avait pas encore tout ce qui est les codes barres, les chiffres avec les étiquettes qu'on met sur les éléments. Donc c'est au niveau du début des années 2000 qu'on a commencé à parler précisément même de traçabilité.
Ouais.
Avec la crise de la vache folle. Je pense que vous avez un peu vécu cette période où on ne savait pas
d'où venait la viande,
exactement. Justement, donc on a eu la chance de spécifier les zones où étaient les vaches contaminées par cette maladie. Donc du coup, il fallait mettre des identifiants pour dire cette viande, soyez rassurés messieurs les consommateurs, cette viande ne vient pas d'une zone où il y a la maladie de la vache folle. Donc c'est là que les gens ont commencé à faire de manière spécifique des étiquettes avec des codes barres ou des QR codes, de telle sorte que moi, en tant que le simple consommateur, je peux scanner les étiquettes et puis récupérer directement les informations qui me certifient que cette viande vient d'un pays safe, d'un pays où il n'y a pas la maladie de la vache folle.
Ouais, ouais.
Et puis après, voilà, après il y a eu plusieurs applications. Donc lors par exemple d'une production, lorsque je remarque des anomalies de production, donc après avoir vendu les produits, par exemple les produits sont dans les supermarchés, moi si je remarque une anomalie, je peux directement rappeler les produits. Mais je peux le faire à partir des codes barres, parce que les codes barres ou les QR codes, à l'intérieur, sont identifiés certaines informations, notamment le lot, notamment la date de fabrication, notamment l'usine dans laquelle...
Ouais, par exemple, quand il y a un produit défectueux dans un lot, souvent ils font un appel à produit. Et du coup, avec toutes ces informations-là, ça permet en fait de savoir exactement quel est le colis qui est suspecté.
Oui, parce qu'avant, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils rappelaient tous les lots. Et là, c'est une grosse perte d'argent. Donc là, on peut savoir spécifiquement les colis qui sont suspectés. On réduit au maximum les pertes et puis on rappelle les produits. Et puis après, ça fait professionnel, ça rassure. Vous êtes en France, vous savez également qu'aujourd'hui, le consommateur ne veut plus acheter pour consommer. Il veut acheter, par exemple, pour
être sûr que... Éco-responsable.
Exactement.
Absolument, avec tout.
Exactement.
Ouais.
Voilà, donc l'éco-responsable, je veux être sûr que le chocolat que j'utilise, il appartient, enfin, il va contribuer au développement des villages ici dans la zone d'Afrique de l'Ouest. Ou alors, je veux contribuer au développement d'une région spécifique en France, alors je m'arrange pour acheter du lait qui vient de cette région. Donc, c'est l'une des applications aussi de la traçabilité. Donc, c'est vraiment un outil de levée de doutes et puis un outil d'identification. Des biens, des produits. Ça peut être aussi fait pour les services. Donc là,
alors je suppose que ça peut également s'utiliser ou en tout cas être utile dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine médical aussi peut-être, Pierre Lemsa.
Exactement. Exactement. Avec nos clients que nous accompagnons dans le domaine médical, nous avons des solutions. Vous voyez sur dans les hôpitaux en général en Occident, sur les lits, vous avez des cartes, des feuilles qui sont sur le bas du lit. Et lorsque le médecin vient, il prend la feuille, il regarde à l'intérieur, le médecin a reçu, il est là depuis tel jour, il a reçu telle injection, tel comprimé. Donc avec la traçabilité, ça dit des codes barres ou même des puces RFID, on peut directement scanner ces informations. Donc c'est là qu'on parle de mobilité, avec des appareils mobiles, je viens, je scanne les informations et sur l'appareil mobile, je vois directement la fiche du patient. Il n'y a plus besoin de se promener avec des fiches, il n'y a plus besoin d'utiliser du papier. Donc, c'est vraiment un outil de levée de doute, un outil de traçabilité qui peut ouvrir la voie à énormément d'applications dans tous les domaines de la vie.
Ouais.
Et nous, chez Équipe Services et Technologies, on a...
Quel profil de vos clients, justement? Est-ce que vous travaillez seulement pour des grosses structures ou peut-être vous travaillez, vous accompagnez des startups ou des petites entreprises?
Oui, bon, c'est clair que la traçabilité et la mobilité, sont des solutions avec des coûts assez élevés. Donc, bien sûr, les grosses sociétés, les firmes, les FMCG notamment et les exportateurs de café cacao s'intéressent vraiment à ce type de solution. Mais quand même, en termes de gestion de stock, en termes d'identification des éléments du patrimoine, nous accompagnons des startups, des PME avec des solutions vraiment à portée de main et puis des solutions déjà sur étagère qui offrent la possibilité au chef par exemple d'un magasin ou bien d'une supérette de pouvoir suivre les éléments du stock et puis empêcher par exemple qu'un malin vienne et récupérer la marchandise et puis sorte sans avoir réglé parce qu'on a sur des éléments, on a des puces RFID.
Ouais.
Qui, lorsque vous n'avez pas réglé le produit, lorsque vous sortez, ça signale. Donc, lorsque vous réglez, on désactive la puce et on vous laisse partir avec l'article. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui offre la possibilité de surveiller le bien pour les petites et moyennes entreprises et même les petites boutiques dans les quartiers.
Et je veux aussi qu'il y avait aussi un outil pour la géolocalisation des biens et des personnes.
Oui. En termes de mobilité, vous savez, les équipes sur le terrain peuvent être amenées à faire des interventions. Je prends l'exemple d'une société, l'un de nos clients qui est dans le domaine de la mécanique et qui envoie des équipes sur le terrain. On a la possibilité de suivre leurs interactions, on a la possibilité de suivre leurs opérations. Par exemple, ils sont sur le terrain, ils mènent une opération, ils mènent une intervention sur un site, sur un véhicule. Juste après l'opération, ils ont la possibilité de pouvoir se faire identifier pour dire notre équipe a fait une intervention sur un véhicule dans le quartier de la Cité Rouge, par exemple, et nous venons de terminer cette intervention. Ensuite, on envoie la géolocalisation. Et puis derrière, vous pouvez identifier toutes vos équipes sur le terrain à travers les équipements mobiles que nous mettons à votre disposition. Je sais que, par exemple, mes équipes sont en ce moment à la Cité Rouge. Il y en a qui sont à Koukoudi, il y en a qui sont à Angré, il y en a qui sont à Djamé. Et je peux voir leurs différents mouvements, je peux les tracer. Je peux même aller jusqu'à bloquer les équipements mobiles pour que l'utilisation soit limitée uniquement à l'application métier qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, en termes de traçabilité aussi, c'est à ce niveau-là. Je laisse de côté tout ce qui est GPS pour les véhicules. Ça, c'est vraiment des solutions que les gens connaissent déjà. Le tracking, pouvoir identifier un véhicule partout où il est, pouvoir l'immobiliser en cas de vol. Vraiment, le champ est vaste. Il y a énormément d'applications, énormément.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer cette société, donc Équipe Services et Technologies? Racontez-nous un petit peu votre parcours et votre trajectoire. Et d'où vous vient cette passion également pour les nouvelles technologies et pour l'ingénierie, Pierre Lemsa?
D'accord. Mon parcours, je suis issu d'un parcours CCA. J'ai fait des études en comptabilité, audit et contrôle de gestion.
En Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, oui. Je me suis inscrit à une école en France à distance, l'INTEC de Paris. Et donc, après ma licence, je me suis rendu compte qu'au fait, bien sûr, j'ai fait des stages en cabinet des services comptables, audit, mais je me suis rendu compte que les chiffres, ce n'était pas pour moi. Donc après, vraiment, par la grâce de Dieu, et ça, je remercie vraiment le Seigneur, j'ai eu une excellente opportunité de travailler sur un projet d'envergure gouvernementale dans le digital. C'était un projet de transformation digitale gouvernementale.
Ouais.
Et j'ai réussi ce projet avec brio. Et par la suite, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas rester dans le domaine du digital. Et donc, j'y suis resté. Et quand le défi s'est présenté de rejoindre l'équipe pour accompagner le développement d'affaires, voilà, j'ai tout de suite, j'ai pas hésité. J'ai rejoint l'équipe et les services de traçabilité, de mobilité, la nouvelle ingénierie, le concept m'a tellement plu qu'aujourd'hui...
C'est fou hein, quand même, parce que du coup, c'est un peu un virage à 360 degrés par exactement, rapport à vos études, du coup.
Ce qui me passionne, en gros, c'est la relation client.
Ouais.
La relation client, pour moi, je dis, c'est vrai, l'éthique, on est tous, l'éthique, ça s'impose à nous. C'est la génération, mais par contre, la relation client, je vous assure, chaque jour...
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la relation? C'est le côté humain, c'est ça?
Je ne lis pas beaucoup, je ne voyage pas beaucoup, mais par contre, j'apprends énormément des gens que je rencontre.
Ouais,
aujourd'hui, je vous ai rencontré vous, bien sûr, par le duplex, j'ai rencontré Lyon, et j'apprends beaucoup de chacun d'entre nous. Et ce sont ces diverses expériences-là qui me conduisent aujourd'hui à être la personne que je suis.
Voilà. Et d'ailleurs, vous définissez également comme un amoureux de la mise en relation. Alors vous dites, oui. Car le Seigneur m'a donné une capacité à connecter les personnes. Ce sont des belles valeurs, ou en tout cas, c'est génial en fait, de mettre les gens en connexion, parce que ça fait naître de belles choses que on l'on voit pas directement, mais le plus souvent, c'est vrai que ça peut faire naître des projets, des choses qui s'ancrent dans le temps du coup.
Exactement, et même des mariages, hein. J'ai des amis que j'ai connectés qui se sont mariés.
D'accord.
Et dans le monde professionnel, j'accompagne énormément de jeunes professionnels à intégrer le marché d'emploi, justement par la mise en relation, parce que j'ai rencontré des professionnels qui m'ont dit, mais écoute, j'aime ta manière de faire, est-ce que tu peux me recommander des profils sur le plan professionnel? J'ai mis en contact des personnes déjà même à l'étranger qui ont pu développer des projets, développer des entreprises. Faire du chiffre d'affaires. Vraiment, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un relationnel extraordinaire et qui est aujourd'hui ma motivation. Chaque jour que je me lève, je me dis, mais aujourd'hui, je peux aider qui a réglé son problème. Et ça, honnêtement, je veux dire...
C'est génial.
Il n'y a aucune joie, je veux dire, vraiment plus important, il n'y a aucune joie qui peut dépasser cette joie-là, de voir le sourire des gens, de voir la satisfaction.
Que les projets avancent aussi, du coup.
Exactement, oui. C'est extraordinaire, franchement. C'est extraordinaire.
Alors, vous êtes aussi engagé dans la vie associative depuis près d'une dizaine d'années, auprès notamment du Rotary Club Abidjan, mais aussi des associations d'étudiants.
Oui.
Alors, vous partagez aussi votre expérience en engagement communautaire. Vous accompagnez des jeunes à l'insertion dans le milieu professionnel et plus généralement à trouver leur voie et s'épanouir sous tous les plans. C'est vrai qu'on n'y pense pas lorsque, au sein de nos familles, on n'a pas on n'a pas la personne qui vient tirer certains fils et nous dire... Bah, ta voix, ça doit être celle-ci ou celle-là, nous conseiller. Ça peut être un peu compliqué pour certains jeunes, Pierre Lemsa.
Justement, j'ai vécu cela parce que je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Je suis enfant unique de mes parents. Et mes parents, ils sont entrepreneurs. Du coup, le monde de l'emploi, du salariat, les longues études et autres, ce n'était pas des questions auxquelles je pouvais avoir des réponses chez eux et dans notre entourage. Mais ils ont vraiment mis énormément, par la grâce de Dieu, énormément de moyens dans mes études. Mais arrivé un moment, j'avais besoin d'orientation. Et j'ai eu des grands frères, des aînés qui l'ont fait. Mais moi, j'ai voulu apporter cette aide-là à mes petits frères, à mes petites sœurs que je rencontrais dans la vie associative. Et pour moi, la vie associative était le meilleur moyen de détecter des perles, des véritables talents à encadrer, à recommander, voilà, et puis à leur permettre de trouver leur voie. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas de père, vous n'avez aucun repère. Vous n'avez pas de mentor, vous aurez toujours tort. Et si vous n'avez pas de tuteur, si vous avez un tuteur, vous n'aurez jamais peur. Donc ce sont ces phrases-là qui rythment chaque jour ma vie en termes d'engagement communautaire. Par exemple, le week-end dernier, on était avec une association de jeunes filles qui encadrent des collégiens et des lycéens. Et je me suis dit, c'est très facile d'encadrer des jeunes femmes entrepreneurs qui ont déjà de l'argent. mais qui va servir de modèle à ces filles qui ont 17, qui ont 12, 13, 14 ans, 15 ans. Et c'est dès cet âge-là qu'il faut identifier les pépites, il faut les encadrer, il faut les servir de modèle.
Semer des graines, en fait.
Exactement. Et ça, c'est vraiment ce que je fais, parce que je me dis que c'est dès notre génération, j'ai envie de dire, elle est déjà sacrifiée. La génération juste avant nous est déjà sacrifiée. Mais ceux qui ont ce moment 11, 12 ans, 13 ans, on peut faire quelque chose. Et c'est ce qui rythme ma vie, mes week-ends. Chaque week-end, on est sur la route.
Qu'est-ce que vous leur dites, jeunes, par exemple? Je ne sais pas quels sont vos arguments. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur dis que le seul moyen de retrouver sa voix sur terre, c'est d'être utile à sa communauté. Et ça ne sert à rien d'être le plus riche, d'être le plus beau, sans être utile à sa communauté. Donc, on leur dit dès maintenant que pour se faire remarquer, pour avoir un leadership, pour avoir un impact dans sa communauté, ça passe notamment et surtout par l'engagement communautaire. Donc,
on les puisse se sentir utile, en fait, à la société.
Et derrière également se former, se développer sur le plan personnel et apprendre des compétences aussi sur le plan professionnel. Parce que, vous savez, lorsqu'on n'a pas d'expérience, et ça je le dis toujours, lorsqu'on n'a pas d'expérience professionnelle, votre expérience en community service, en association, le fait par exemple d'avoir été secrétaire, trésorier, remplace vos compétences, votre expérience sur le plan professionnel. Et ça c'est très important. C'est très important. Et puis derrière, ça vous permet d'avoir un réseau, de rencontrer des personnes, de rencontrer des aînés, des mentors, des personnes qui peuvent un jour vous recommander ou vous aiguillonner sur le plan professionnel. Moi, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois.
Alors, vous êtes aussi initiateur du Business Development Board, qui est le réseau qui a pour ambition de réunir tous les commerciaux des régions francophones d'Afrique. Alors, vous nous en parlez un petit peu de ce concept ?
Oui, ce concept est né parce que quand je suis arrivé, je l'ai dit, il n'y a pas vraiment longtemps que j'ai décidé d'entrer dans la relation client. Je l'ai dit depuis 2017, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, les personnes qui avaient besoin d'étendre leur réseau dans les entreprises, c'était le département d'affaires, le développement d'affaires, le développement du commerce, les business développeurs et autres. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas entre nous déjà réseauter, mettre en place des projets qui vont nous rassembler, développer ensemble des choses extraordinaires et puis derrière, faire la promotion de la profession. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites à votre... Moi, j'ai dit à mon père, je suis commercial, il m'a dit, mais lui, pour lui, le commercial, c'est le gars qui a un gros sac au dos qui se promène de porte à porte.
Qui vend des tapis.
Alors qu'en réalité, il y a des boîtes où le directeur commercial, limite, il gagne pratiquement le même salaire que le DG avec les bonus et tout. Mmh. Donc, c'est vraiment mettre en valeur cette société et que les gens soient fiers d'encourager leurs enfants bien sûr, à devenir commerciaux, business développeurs, et puis derrière, mettre en valeur la profession auprès des entreprises, que les commerciaux soient valorisés, que les éléments des différents contrats soient clairs, spécifiques. Et puis voilà, c'est du réseautage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime le réseau, j'aime les gens. C'est du réseautage. On a déjà des membres qui sont au Maroc, qui sont au Sénégal. Ici, on a déjà des directeurs commerciaux, même des directeurs généraux qui sont membres d'honneur du réseau. On en a dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, les cabinets de recrutement nous sollicitent également pour qu'on leur recommande des profils d'experts dans le domaine. Et c'est vraiment l'idée. Et voilà. Donc, en gros, c'est vraiment une initiative pour réunir et puis pour nous développer et réseauter.
Où est-ce qu'on retrouve justement Business Development Board sur Internet, sur les réseaux, pour ceux que ça intéresse?
Oui, pour le moment, on n'a pas encore fait la sortie officielle. Ça va se faire entre ce mois et ce mois prochain.
D'accord.
Donc, on a décidé d'agir. Voilà, on a décidé d'agir dans l'ombre. On a la documentation qui est en train d'être réalisée au niveau de la préfecture d'Abidjan. Mais sur le plan médiatique, ça va se faire, je pense, d'ici 2-3 semaines. L'équipe de communication y travaille. Et puis, déjà, pour ceux qui veulent, bien sûr, intégrer ce réseau, il suffit de m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, et on pourra échanger, on pourra intégrer.
Alors, vous êtes aussi président de la commission organisation virtuelle aux assemblées et conventions du Rotaract. J'ai dit Rotaract, alors je me suis trompée. Club Abidjan Golf, qu'est-ce que c'est?
Bon, d'abord, il y a le Rotaract. Donc, le Rotaract, je pense que vous le connaissez déjà.
Oui,
c'est
bien
une
sûr.
Association. C'est un groupe de personnes leaders dans le monde professionnel.